Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le podcast des maternelles. Le podcast des maternelles épisode 4. Aujourd'hui, on parle d'un sujet majeur qui peut vite devenir une obsession pour les parents. Le sommeil, ou plutôt le manque de sommeil à cause des enfants. Alors vous savez qu'il se murmure que l'une des tortures les plus cruelles, c'est d'empêcher l'autre de dormir, d'attendre qu'il ferme les yeux et hop, on le réveille encore et encore et encore et encore. Eh bien, faut le reconnaître, nos enfants, souvent, trop souvent, nous font vivre cette torture-là. Des parents qui expliquent, avec des cernes jusqu'au nombril, que ça fait 6 mois, que ça fait 1 an, que ça fait 2 ans ou même plus qu'ils n'ont pas dormi plus de 3 heures d'affilée. Vous imaginez ?
Je suis passée d'un état de fatigue visible à un état de fatigue chronique, vraiment. Entre le moment où je la couche, il est 8 heures, et le moment où elle se lève à 7 heures le matin, je ne fais pas 3 heures de dodo personnel dans mon lit.
Ça, c'est donc pour la nuit. Mais vous avez aussi des parents, nombreux là aussi, qui vous expliquent que c'est avant la nuit que c'est horrible, le moment qui devrait être celui des parents, justement, mais qui, à cause d'une petite terreur, ne le sont pas vraiment.
Les couchers sont difficiles quasi tous les soirs. En fait, elles se relèvent sans cesse, et cela peut durer jusqu'à 23 heures, voire plus. On dirait qu'elles nous testent jusqu'à ce qu'on s'énerve.
Ça crie, on est crevé, énervé, bref, c'est la cata. Je crois que beaucoup de monde connaît ça. Alors l'avantage de ces situations, c'est qu'elles nous apprennent beaucoup sur nous-mêmes, sur notre résistance physique, des capacités qu'on ne pouvait même pas imaginer.
On est crevé, on est vraiment crevé. Je me dis qu'un jour, ça ira mieux. Hein. D'ici ces 18 ans, on devrait s'en sortir, je pense.
Et encore, hein, imaginez, votre enfant, ça devient tanguy, jusqu'à ses 40 ans, il vous réveille, ça se pourrait, hein, on sait jamais. Alors vous savez, le plus dingue dans tout ça, le plus fort aussi, c'est que nos enfants, ils nous font subir un enfer la nuit. Appelant un chat, se faire réveiller 10 fois, c'est un enfer. Mais malgré ça, c'est plus fort que nous. On n'arrive pas à leur en vouloir.
Après, les jours où je suis fatiguée, je fais une sieste et puis ça va mieux. Puis de toute façon, un sourire, un câlin, et voilà, on oublie le manque de sommeil. Même si c'est une vraie torture parfois.
Pas de problème, mais bon, le câlin, on peut aussi se le faire après avoir bien dormi, ça ne gâche rien. C'est compris les enfants ? Bonjour, je m'appelle Benjamin Muller et vous écoutez le podcast des maternelles. Aujourd'hui donc, on se soutient, on s'échange des bons conseils et on trouve des solutions pour dormir, enfin. Parce que franchement, on l'a tous vécu, non ? Bien au chaud, sous sa couette, on est en pleine nuit, tout est calme, tout va bien. Ah, bien dormir, c'est tellement bien. Sauf que, devinez qui va en une petite seconde complètement changer l'ambiance ? Allez coco, allez cocotte, debout, faut aller voir le bébé, il t'appelle. Oui, oui, il t'appelle, c'est bien toi qui l'appelle. Alors quand c'est un tout petit bébé encore, ça va, on se dit qu'il a peut-être un problème, donc généralement on se lève sans trop râler. Mais le problème c'est quand l'enfant grandit et que ses réveils la nuit, eh ben il continue. Oui, oui, je t'entends, mon chéri. Pourquoi il dort pas? Pourquoi il dort pas? T'inquiète pas, j'arrive, oui, j'arrive, 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 1 an. J'arrive pendant 2 ans, 3 ans, oui, parfois ça dure, le « j'arrive en pleine nuit », ça dure longtemps, les nuits sans sommeil.
Maman, j'ai fait un cauchemar !
Eh oui, là on y est, les amis, là ça devient la vraie bonne galère, sans parler du coucher qui peut aussi bien vous pourrir l'ambiance à la maison.
Papa, j'arrive pas à dormir, je veux pas dormir, je dormirai pas.
Oh que oui, je le sais, ces extraits, ils doivent parler à beaucoup de monde. Oui, nos enfants peuvent vraiment nous mettre la misère la nuit. Mais aujourd'hui, vous allez voir, on va reprendre le dessus, regagner notre fierté la nuit. On va relever la tête et grâce à notre invité, oui, c'est notre projet, comme dirait l'autre, on va enfin redormir. Vous êtes prêts ? Bah oui, forcément que vous êtes prêts, ça fait des mois que vous n'attendez que ça depuis on sait. Alors c'est parti. Bonjour Clémence Pompsy.
Bonjour Benjamin.
Vous êtes psychologue clinicienne à Boulogne-Billancourt. Vous êtes cofondatrice avec Aurélie Calais de Kids & Families, qui est un service de coaching parental où vous aidez, comme son nom l'indique, des parents qui ont bien souvent besoin de vous, notamment pour les questions de sommeil. Je précise que sur votre site internet, sur celui de Kids & Families, vous proposez aux parents de s'offrir ce qu'ils le souhaitent, vos meilleurs conseils pour des nuits apaisées, une sorte de mémo qui peut bien sortir les parents de situations compliquées avec des conseils concrets. Clémence Pompsy, je crois que vous avez beaucoup de vos consultations à propos justement des troubles du sommeil.
Oui, tout à fait. C'est vrai que dans le quotidien, on sait que c'est des choses qui peuvent rendre fou, malheureux, triste, déprimé. C'est vraiment pas rigolo de pas dormir. dormir et c'est une torture bien organisée de nos bébés, donc on essaye de soulager les gens.
Vous dites les bébés, il y a surtout des gens qui ont des problèmes avec les tout petits, ou alors on voit de plus en plus de parents avec des enfants de 5 ans, 6 ans, 7 ans qui ont toujours des troubles du sommeil?
Alors on a les deux problèmes, et il y a les gens qui ont la chance de cumuler les problèmes. Parfois c'est bébé qui a souvent ça part d'une douleur ou bien d'une mauvaise habitude, et puis parfois quand ça s'est bien passé bébé, on découvre les joies de quand on retire les barreaux du lit par exemple, et que là c'est coucou me voilà 42 fois jusqu'à 23h dans le salon.
Jusqu'à ce qu'on remette les barreaux du lit, et généralement il dort bien. Donc justement, pour répondre à tous ces parents qui ont ces problèmes, ces troubles du sommeil, et en particulier pour les plus petits, pour les bébés, vous avez vous-même lancé, je trouve que c'est une très bonne idée, une forme de tuto, on peut le dire comme ça.
Oui, alors en fait on avait tellement de délais d'attente qu'on trouvait ça insupportable de pas venir en aide aux gens assez rapidement, donc on vend une formation qui reprend absolument tous nos trucs et astuces, nos secrets, toutes les bases à mettre en place, aussi bien physiquement que les diagnostics médicaux à éliminer, que la chambre idéale, la façon de coucher, surtout voilà, comment aussi équiper les mamans pour être non coupables, le rapport à l'allaitement. Voilà, et on voulait que les gens puissent y avoir accès immédiatement, le soir même chez eux, et pas attendre 3 mois. Parce qu'en 3 mois, il se passe plein de trucs chez un bébé.
C'était téléchargé sur votre site Kids and Family, parce que oui, il y a des trucs, et on va voir ça tous ensemble. Premier témoignage, celui d'Estelle, écoutez.
Je suis Estelle, donc j'ai 38 ans, je suis la maman de 2 enfants. De Joshua qui a 7 ans et demi et d'Emilie qui a 3 ans. Et c'est cette petite terreur qui ne dort toujours pas les nuits, qui nous réveille depuis sa naissance en fait. Toutes les nuits, ça va dans le meilleur des cas de 3 fois par nuit. On a été entre ces 6 mois et 18 mois, on a été jusqu'à 15 fois par nuit avec des hurlements qui ne cessaient. Elle ne dormait que dans mes bras. Quand je la recouchais, elle se mettait à hurler dès qu'elle sentait qu'elle n'était plus en contact avec moi. C'était l'enfer. Elle n'a jamais fait ses nuits. À sa naissance, elle a dormi uniquement la première nuit à la maternité. Et puis la deuxième nuit, une sage-femme a eu la gentille et délicate attention de claquer la porte de la chambre en sortant. Il était 3h du matin. Ça a réveillé ma fille en pleurs. Et depuis, elle n'a jamais fait une nuit. Je ne sais pas si ça a une relation de cause à effet, mais en tout cas, ça peut être un élément déclencheur. On a eu des périodes d'accalmie où elle dormait plutôt bien, sans hurler. Et puis, entre ces 6 mois et 18 mois, elle a commencé à réclamer plus de biberons. Elle a commencé à hurler encore plus fort. C'était très difficile. On ne peut pas dire qu'elle ne fait pas ses nuits tant qu'on ne les a jamais fait. En fait, un enfant, à 6 mois, 9 mois, on se disait « oui, ça va venir ». Et en fait, ce n'est jamais venu. Et les années ont passé. Je suis passée d'un état de fatigue visible à un état de fatigue chronique, vraiment. Tout se passe à l'intérieur. Nerveusement, c'est très difficile, puisqu'en fait, si on fait le compte, depuis 3 ans, je ne dors jamais plus de 3 heures d'affilée pendant la nuit. Entre le moment où je la couche, il est 8h, et le moment où elle se lève à 7h le matin, je ne fais pas 3 heures de dodo personnel dans mon lit. Il y a des périodes où j'en ai même jamais fait du tout. C'est difficile, c'est les nerfs qui ont pris le relais. Être fatiguée, c'est mon état chronique depuis longtemps. Mes collègues du travail le voient bien. Je m'accroche, je lutte. J'ai pas besoin de courage, ou j'ai pas besoin qu'on me dise que ça va aller, parce que c'est devenu un état de fait dans la maison, que ma fille ne dorme pas. On vit avec. Voilà, notre vie est tournée autour de ça, et ça a atteint toute la famille. C'est ça le plus dramatique. Donc voilà, j'espère que mon témoignage pourra soulager peut-être quelques mamans qui se demandent quand ça s'arrêtera, parce qu'en fait, ça ne s'arrête jamais.
Alors Clémence Prompsy, il y a du boulot avec Estelle. Par où on commence? Quand elle dit jusqu'à 15 fois par nuit qu'elle ne se souvient pas d'avoir dormi plus de 3 heures, sa fille qui hurlait très fort, elle parle de fatigue chronique. Si elle était en face de vous, vous commenceriez par lui conseiller quoi?
Déjà, la pauvre, je commencerais par l'écouter et par lui dire à quel point elle a dû souffrir et essayer de lui remonter le moral, parce que ça finit par profondément déprimer les gens, de manquer de sommeil, c'est physique. Le cerveau ne libère plus rien de positif dans le corps, et donc c'est vraiment très dur à vivre. J'aurais surtout envie de parler à sa fille et d'essayer de faire une alliance avec sa fille, parce que a priori, Estelle, elle a cumulé les problèmes donc depuis le début. Donc là, elle ne sait plus très bien si c'est à l'époque physique, à l'époque la sage-femme qui claque la porte. Aujourd'hui, c'est des passer, mais les problèmes ont dû se passer le relais les uns les autres. Et aujourd'hui, c'est avec sa petite fille de 3 ans et demi que j'aimerais bien créer une alliance et essayer de faire un grand défi. Peut-être qu'Estelle, elle peut le faire. Ça commence par une grande conversation solennelle. Souvent, chez nous, chez Kids et Family, on fait un grand changement de chambre, du tri, on enlève un peu les jeux de bébé, on va commencer à dire à l'enfant qu'on va lui faire une chambre de grand. Ça passe pas forcément par des achats très coûteux, mais un petit poste de musique, coller un petit miroir à la hauteur de l'enfant pour qu'il puisse se voir dedans. Il y a un des conseils qui est absolument essentiel pour tous les témoignages, c'est que l'enfant, passé un an et demi, puisse passer du temps en journée dans sa chambre. Et ça peut pas être qu'un lieu d'isolement, de solitude et de noir, ça doit aussi être un lieu de fun, de musique, de jeu, voilà, et de présence, et avec les frères et sœurs, avec les parents. Et ça s'apprend, ça peut prendre quelques week-ends. Au début, vous restez avec votre café au lait le matin, puis vous dites « Attends, je reviens dans 5 minutes », puis le soir avec votre verre de vin. Et on sort doucement, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. On essaye de virer tous les jeux du salon et que Euro Disney soit plutôt dans sa chambre plutôt que dans le salon. Mais en tout cas, c'est très important. Et là, aujourd'hui, Estelle, j'espère que voilà, elle pourrait créer une alliance avec sa fille, lui dire « Allez, nouvelle chambre, nouveau dodo, nouvelles règles ».
Avec l'idée que la chambre est un endroit sympa. C'est pas le lieu de la punition, ou alors on dort, c'est triste, etc.
Exactement. Alors là, il faut réparer aussi Estelle dans son rapport à elle, au sommeil, parce qu'elle est tellement stressée de coucher sa fille, tellement malheureuse de pas dormir depuis si longtemps, que ça devient très compliqué pour elle d'aborder le sommeil de sa petite fille gaiement. Et c'est bien de... Alors, faut pas hésiter d'ailleurs à faire rire vos enfants avant d'aller se coucher. Et ça, il n'y a pas d'âge pour ce conseil-là, parce que ça envoie plein de bien-être dans le corps. Et en fait, ça détend. On lui court pas après en lui criant « Je suis le loup, ah 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 !» Et on la jette pas au plafond. Mais par contre, des petites grimaces, un petit cache-cache, la mettre sur son dos, sur vos pieds, n'importe quoi qui la fait un peu rire. Arracher un fou rire à son enfant, ça détend.
Nouveau témoignage de quelqu'un qui a besoin d'être détendu, c'est Chloé. Écoutez.
Ici, ma fille de 18 mois a dû faire depuis sa naissance une trentaine de nuits complètes, je pense. Pas beaucoup plus, certainement moins. Ça dépend des nuits. On peut avoir des réveils toutes les 2-3 heures ou juste une seule fois, ou parfois, miracle, aucun réveil jusqu'au lendemain matin. Et le problème, c'est que la nuit, elle refuse totalement son papa, donc mon mari ne peut absolument pas m'aider. Donc ben, j'y vais parce que je refuse vraiment de la laisser pleurer, j'en suis incapable, donc... Toutes les nuits, j'y vais, je lui donne le sein parce que je l'allaite encore, et puis j'ai de la chance, elle se rendort presque aussitôt, mais moi, pas du tout, donc je mets parfois une demi-heure, une heure à me rendormir, donc le lendemain, c'est un peu sport, surtout que là, je suis enceinte du deuxième, alors je me demande vraiment comment on va faire quand le deuxième sera là. Bon, bah, on le prend avec le sourire, de toute façon, on n'a pas le choix, on est fatigué, mais bon, nous sommes heureux, à chaque fois, je me dis, bon, allez, pense aux parents, qui n'arrivent pas à faire d'enfants, ils aimeraient bien ne pas dormir la nuit. Donc voilà, je me rassure comme je peux, mais oui, on est crevés, on est vraiment crevés. Je me dis qu'un jour, ça ira mieux. Hein. D'ici ces 18 ans, on devrait s'en sortir, je pense.
Chloé qui est optimiste, c'est bien de voir le verre à moitié plein, mais on peut pas se contenter de dire il y en a qui ont pas d'enfants, les pauvres, etc. Moi, ce qui m'a surpris dans son témoignage, c'est quand elle dit que sa fille refuse catégoriquement le papa. Elle dit « D'ailleurs, le papa ne peut pas m'aider ». Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à creuser là-dessus, où elle parle déjà d'aide du papa ?
Alors moi, je n'ai pas tous les indices, mais je félicite Chloé pour cette belle leçon de courage qui garde le moral et on l'embrasse. La question, en fait, je pense que sa petite fille a besoin de son oreiller à 2h du matin, comme vous et moi, si on se lève et qu'on fait l'aller-retour aux toilettes, quand on revient, qu'on n'a plus d'oreiller et plus de couette, on ne va pas se coucher sur notre matelas et se dire « Ah bah super, il est 4h12, je repars ». Non, on va chercher notre oreiller partout. Et je pense que son papa n'est pas... peut-être pas à l'origine de son endormissement le soir, et que sa maman et le sein est peut-être devenu un tout petit peu l'oreiller de sa fille. Donc à chaque fois qu'elle se réveille, et tous les animaux se réveillent, les hommes, les bébés, tout le monde se réveille, mais à chaque fois qu'elle ouvre un œil, eh ben, elle cherche ses éléments pour se rendormir. Alors j'en sais rien, hein, je ne sais pas si elle s'endort aussi.
Donc conseil concret qu'on pourrait lui dire, ce serait 1, essayer de ne pas l'endormir au sein si c'est le cas, mm-hmm. et 2, que ce soit le papa qui aille endormir sa fille.
Ça nous ferait au moins 2 oreillers, ça pourrait être pratique, on pourrait zapper entre les deux parents.
C'est fréquent ça qu'il y ait un des deux parents uniquement qui soit l'oreiller de l'enfant ?
Oui, ça veut pas du tout dire hein, que les enfants n'aiment pas papa, c'est juste que c'est comme si quand vous cherchez votre oreiller, vous Benjamin, je vous apporte votre paire de chaussures préférées. C'est votre paire de chaussures préférées mais vous allez me l'acheter dans la figure en me disant qu'est-ce que je fasse de ça ? C'est pas l'utilité, c'est pas la chose dont on a besoin.
Clémence Probst, si on continue avec ce nouveau témoignage, là aussi il va être question d'allaitement de Marie, écoutez.
Bonjour, moi c'est Marie. J'ai un bébé de 5 mois et ça fait 5 mois que je n'ai pas dormi plus de 3 ou 4 heures d'affilée. Mon bébé ne fait pas ses nuits, en effet. Il est allaité exclusivement depuis sa naissance et toutes les nuits, il se réveille toutes les 2-3 heures. Quand j'ai beaucoup de chance, il arrive à faire 4 heures d'affilée en première partie de nuit. Et quand il se réveille, pour le moment, je n'ai pas trouvé d'autre solution que de lui donner le sein. En fait, il est devenu totalement accro au sein et quand il se réveille la nuit, je le mets au sein et en 5-10 minutes, il se rendort. Et voilà, c'est reparti pour 1h30, 2 heures de sommeil. Et il se réveille. Après, je ne sais pas si c'est le fait d'être allaité qui fait qu'il se réveille souvent. C'est vrai qu'on me dit souvent, donne-lui des biberons, de lait artificiel, il dormira mieux. Mais pour l'instant, je n'arrive pas à m'y résoudre parce que j'ai pas vraiment envie d'arrêter l'allaitement. Il y a aussi le fait qu'il dorme dans ma chambre, dans son berceau cododo. C'est vrai qu'il est à côté de moi la nuit et que du coup, lorsqu'il se réveille, c'est assez facile pour moi de tendre les bras, de le prendre, de lui donner le sein. Mais aussi, de nombreuses personnes me disent, et puis on lit aussi beaucoup sur les réseaux sociaux, que s'il était dans sa propre chambre, peut-être qu'il dormirait mieux parce qu'il sentirait moins mon odeur et serait donc amené à se réveiller moins souvent. Là encore, j'ai beaucoup de mal à me résoudre à tenter l'aventure, parce que s'il s'avère qu'il se réveille tout aussi souvent, j'ai peur d'être encore plus fatiguée à devoir me lever pour aller le chercher et l'allaiter. Pour l'instant, je fais avec. J'ai la chance d'être en congé parental et de pouvoir un peu récupérer pendant les journées. Mais si j'avais enfin la chance d'avoir un bébé qui ferait ses nuits, je pense qu'on se reporterait tous très très bien.
Alors Clémence Frompsy, alors c'est déjà un bébé, on rappelle, qui a 5 mois, donc qui est encore tout petit. Cette maman, son analyse, c'est peut-être que ça peut être dû à l'allaitement. Déjà là-dessus, qu'est-ce que vous en pensez ?
Bah déjà, je la félicite de s'écouter elle et de bien nourrir son instinct de maman qui a envie et qui fait ce dont elle a envie et ce que son corps lui réclame. Pas que l'allaitement soit mieux que le lait en biberon, etc., mais juste faire ce qui est important pour soi, c'est quand même vraiment chouette. Le petit détail de l'allaitement, effectivement, c'est qu'au bout d'un moment, les parents qui ont une tétine vont se lever à 5 mois 42 fois aussi et ont envie de ficher cette tétine à la poubelle. On ne le fait pas, mais on a envie. Sauf que la tétine, à 7, 8, 9 mois, ils finissent par l'attraper tout seul dans le lit. Et puis on peut en mettre plein. Et puis on peut lui apprendre à la prendre tout seul dans sa main. Le sein, c'est très compliqué de le laisser toute la nuit et de partir dormir. Donc elle est elle-même un peu emprisonnée et devient un peu la tétine de bébé. Il a évidemment pas forcément faim, il a juste besoin de ses petits conforts pour s'endormir. Le nerf de la guerre en matière de sommeil, c'est effectivement d'essayer de favoriser que le bébé apprenne à se voir partir et à se voir s'endormir et à comprendre qu'il s'endort dans son petit corps, pas forcément en lui facilitant trop le job. Plus on facilite le job, plus on lui complique la tâche après. Donc c'est aussi un beau cadeau à faire et ça n'enraye absolument pas l'allaitement à la demande. Mais si déjà cette petite maman peut au moins essayer encore une fois d'essayer de l'accompagner dans son sommeil, alors on peut, évidemment on ne le laisse pas pleurer parce que si on laisse un bébé pleurer, en fait ça envoie plein d'hormones de stress. On peut le laisser miauler 30 secondes, 3 minutes, dépendamment un peu du bruit de l'enfant. Mais le laisser hurler en s'endormant, ça peut finir par cristalliser que le bébé, à la fin, il rentre à peine dans sa chambre, il se met à hurler parce qu'en fait, il est tellement stressé de se rapprocher de cet endroit qu'il va détester le sommeil, s'endormir, etc. Mais en tout cas, c'est un peu notre job aussi que de leur proposer cette autonomie dans l'endormissement.
Et alors, elle parle du cododo, ou en tout cas de dormir dans la même chambre. L'OMS dit, les 6 premiers mois, l'idéal, c'est de dormir dans la chambre des parents. Et elle explique que sur les réseaux sociaux et dans son entourage, on lui dit « mais t'as qu'à le mettre dans ton lit ». Faut qu'elle écoute qui alors ? Faut qu'elle écoute l'OMS ou les réseaux sociaux ?
Moi, j'aime bien qu'elle écoute son cœur, parce que l'OMS du Moyen-Âge a dit jusqu'à 6 ans, et l'OMS dans 30 ans nous dira « vous êtes malade, il faut surtout pas faire ça ». Bon, ce qui est bien, à un moment, devient très dangereux dans 6 ans, donc moi, je suis pour qu'on suive notre instinct. Ce qui est très important, chère maman, c'est quand même de pas vous oublier. Parce que l'allaitement, ne pas laisser pleurer, tout ça, évidemment, on est tous pour, et c'est formidable. Mais n'oubliez jamais que dans un avion, quand il y a un accident, on vous demande de mettre le masque à oxygène d'abord sur l'adulte, puis sur l'enfant. Parce que si nous, on s'occupe pas de nous, on peut pas s'occuper de bébé. Et clairement, c'est pas bébé qui va vous dire « maman, tu as l'air fatiguée, je pense que tu devrais dormir ».
C'est pas la clé de tout, là, ce que vous venez de dire ? C'est-à-dire que beaucoup de parents s'oublient un petit peu, s'oublient trop, même avec leurs enfants, laissent tout passer à leurs enfants, même si pour un bébé de 5 mois, c'est compliqué. Mais est-ce que globalement, il n'y a pas une règle là-dessus ?
Oui, en tout cas, l'égoïsme de l'adulte, pour moi, c'est la bonne limite. Il ne faut pas le voir comme un drame. Il ne faut pas qu'on... Tant mieux si on peut vivre les choses dans la bonne humeur, mais il ne faut pas aller trop loin parce que, voilà, quand on se perd physiquement ou psychologiquement, qu'on n'est plus en accord avec ses valeurs, il ne faut pas lutter. J'ai vu des mamans trop déprimées à 17 mois, complètement perdues...
Nouveau témoignage cette fois d'Anaïs.
Quand ma première aînée, on pensait que ce serait compliqué les nuits au début, mais que ça se passerait relativement vite. En fait, non. Elle a été allaitée au début. On a fini par introduire un biberon par le manque de sommeil qu'on avait. On s'est dit, oh, tiens, ça peut peut-être marcher. Et finalement, non. Ça s'est plutôt aggravé parce qu'elle avait un reflux qui était en fait dû à une intolérance au lait de vache, sauf qu'on ne le savait pas encore. Et les nuits, donc c'était horrible. Elle hurlait de douleur. Et après une éviction donc des protéines de lait de vache, on me disait ça allait mieux se passer. Non, elle se réveillait, elle avait besoin d'un câlin. Déjà, elle hurlait plus, et ça, c'était un gros point. Et puis vers 2 ans et demi, sans qu'on s'en aperçoive, voilà, elle a mieux dormi, une nuit, deux nuits. Ça a continué. Après, il y a toujours besoin, après un cauchemar, besoin d'un câlin, besoin d'être rassurée. On l'accompagne, et puis ça passera. Quand ma deuxième aînée, j'étais déjà forcément mieux préparée. On a opté pour le plus simple, pour nous, pour mon mari. On a fait du cododo. De toute façon, elle voulait dormir que sur moi, les 6 premiers mois. Après, petit à petit, elle a accepté son lit. Au sol, comme ça, c'était plus simple pour l'accompagner dans le sommeil, pour s'il y avait des réveils, pour une tétée ou pour autre. Elle a commencé la crèche, elle avait 10 mois. Forcément, les réveils se sont intensifiés. Elle ne me voyait pas la journée, je ne pouvais pas lui refuser de me réveiller la nuit et d'avoir besoin de moi. Ce n'est pas possible. Donc, on a accompagné. Vers ces 20 mois, on a décidé de faire un sevrage de nuit. Parce que moi, c'était plus possible de donner le sein. Je le vivais mal, donc on l'a accompagnée. Actuellement, elle a 23 mois. Les nuits ne sont pas parfaites. Hein. Elle ne dort pas de 21h à 6h. Mais elle dort mieux. Moi, je me sens mieux. Après, les jours où je suis fatiguée, je fais une sieste et puis... Et puis ça va mieux. Puis de toute façon, un sourire, un câlin, et voilà, on oublie le manque de sommeil, même si c'est une vraie torture parfois.
Anaïs, elle le dit très clairement, c'est trop difficile de refuser de se lever la nuit, comme on se voit pas la journée, c'est un moment qu'elles ont toutes les deux. Là, on a envie de dire qu'il y a un problème qui n'en est pas vraiment un encore pour la maman. Qu'est-ce qu'on peut lui conseiller ?
Je pense que son analyse est bonne et en tout cas moi ce que je pense c'est que les enfants entendent absolument tous nos secrets, donc laisser pleurer un bébé alors que dans le fond c'est impossible et que c'est juste parce que la voisine nous l'a conseillé, ou ne pas se lever alors que finalement on en a physiquement un peu envie, je crois que le téléphone est bien relié et que bébé sait et donc va tambouriner encore plus fort. Et puis bébé a besoin de dormir, mais quand il a encore plus besoin de voir maman et de remplir son réservoir de présence, je pense que c'est bien d'écouter ce réservoir là aussi. On s'en fiche un peu aussi de faire comme il faut parfaitement.
Ouais, y a aussi le poids un peu des réseaux sociaux, on en parlait, des copains, des copines, des parents, ouais. Des beaux-parents. Chacun donne un peu son avis sur le sommeil notamment.
Ouais, et puis je crois que toutes les bêtises qu'on peut faire jusqu'à 3 ans, le jour où on en aura marre, on la défera et puis on le réapprendra autrement. Et puis crotte, puis on aura kiffé pendant 3 ans, mal, et puis on aura mal fait, et puis c'est pas grave.
Allez, nouveau témoignage de Coralie, je sais pas si elle kiffe, on va écouter tous ensemble. Elle, c'est pas tant la nuit le problème, c'est surtout le coucher.
Bonjour, je suis Coralie, j'ai 31 ans et je suis la maman de Camille qui a 4 ans et de Mathilde qui a 1 mois et demi. Camille a toujours été un bébé sage, elle a fait ses nuits à 2 mois et elle dormait en général de 21h à 9h du matin, avec une belle sieste en plus l'après-midi. Sauf que depuis presque 2 ans, le coucher est devenu compliqué. Que ce soit dans son lit à barreaux, puis dans son lit de grande. Il n'y a pas eu de changement particulier dans nos vies, à part l'arrêt des biberons le soir, suite au scandale du lait Picot. Elle n'a jamais voulu un autre lait. Les couchers sont difficiles quasi tous les soirs, et malgré un rituel depuis toujours, qui est le lavage de dents, lecture d'une ou deux histoires, câlins, bisous, mise en place de la veilleuse, elle n'a pas d'écran le soir. En fait, elle se relève sans cesse, et cela peut durer jusqu'à 23h, voire plus. On dirait qu'elle nous teste jusqu'à ce qu'on s'énerve, sachant que c'est aussi un peu le cas la journée, car c'est une petite fille qui a un fort caractère, sans pour autant nous faire entre guillemets des crises ou voilà, elle n'est pas difficile, elle n'écoute pas en fait, elle n'en fait qu'à sa tête, de jour comme de nuit. Par contre, malgré qu'elle se relève plusieurs fois pour le pipi, le câlin, le bisou ou le fait qu'elle n'arrive pas à dormir, une fois qu'elle s'endort, généralement, elle a un bon sommeil. Peut-être un petit réveil, elle bouge beaucoup dans son sommeil, mais ça va. Voilà, donc du coup, nous, les parents, voir un film ou passer une soirée au calme avant d'aller dormir, c'est rare. Sachant qu'en plus, on a tous les deux des horaires atypiques. Je suis infirmière et lui a une entreprise de travaux agricoles. Donc il y a aussi le fait du coup que le coucher et le repas du soir soient pas forcément à heure fixe, suivant nos horaires à nous deux pour Camille. Et l'arrivée de sa petite sœur n'a ni empiré ni amélioré la situation. Hormis le fait que depuis qu'elle ne fasse plus de sieste l'après-midi, c'est un chouïa mieux.
On est toujours avec vous, Clémence Prompsy, la cofondatrice de Kids et Family, je le rappelle, le service de coaching parental. Vous devez en entendre plein, des histoires comme ça d'enfants qui mettent un peu la misère à leurs parents le soir, qui ne veulent pas dormir. J'ai l'impression que c'est assez fréquent.
C'est fréquent et c'est mon grand plaisir de voir ces petits-enfants. Généralement, au bout d'une demi-heure, je finis par leur expliquer comment on fait les bébés. Parce qu'en fait, c'est pour ça qu'ils sortent de leur lit, ces petits coquins. Ils viennent de comprendre, enfin depuis déjà quelques mois, la différence des sexes. Il n'y a pas que des bébés et des adultes, il y a aussi des filles et des garçons dans ces deux groupes-là. Et là, un espèce d'eureka complètement impossible à partager avec ses pères. Bon sang, mais tous les adultes se rangent par deux et les bébés sont tous tout seuls. Même quand il y a des frères et sœurs, il n'y a pas de lit double, ils sont tous sur des lits superposés. Et en fait, ils sont dévorés par une curiosité qui est mais pourquoi, comment on fait les bébés, pourquoi, etc. Donc on peut leur expliquer avec des mots très simples. Il faut toujours un papa et une maman. On peut se baser sur les femmes enceintes dans la rue ou de sa propre, ou montrer l'album photo d'une maman enceinte ou des choses comme ça. Lui acheter évidemment une poupée, mais elle doit déjà en avoir 42, mais on augmente avec son, pour qu'elle soit elle-même une maman. Ne pas hésiter à lui dire quand elle sera grande, elle sera une maman, mais que pour l'instant, elle ne peut pas avoir de bébé dans son ventre, mais peut-être qu'elle en voudra un plus tard.
Quand Coralie dit « Ouais, mais pour nous deux, en tant que couple, c'est difficile de passer un moment à deux », c'est un peu l'objectif de sa fille, de leur empêcher de passer un moment à deux.
C'est, alors pas forcément de les empêcher, mais en tout cas, elle aimerait bien savoir ce qu'un papa et une maman font entre 21h et 23h, parce qu'ils ont bien compris qu'on fermait la porte et qu'il y avait un mystère à résoudre. Et donc, en tant que psy, moi, je rigole bien au cabinet, et leur petit regard, quand je leur explique, est absolument merveilleux, je dois dire que c'est très gai. On n'hésite pas, astuce inestimable à cet âge-là, à inviter leurs copains d'école. Je sais que en début d'année scolaire, c'est pas fastoche. Bah, tant pis, vous écrivez un petit mot, vous dites « Je suis la maman d'Alice qui m'a souvent parlé de votre petit garçon, même si c'est un mensonge. » Vous laissez votre numéro de téléphone et vous dites « Je serais ravie de faciliter l'amitié de nos enfants. » La sortie de l'Oedipe, la sortie de cette question, c'est de se dire « C'est pas avec papa et maman, c'est dans ma vie à moi. » Et pour avoir sa vie à soi, il faut l'augmenter, cette vie sociale. Et ça peut paraître un peu tôt, à 3 ans, mais ils seront déjà très soulagés et ils auront très vite des amoureux en petite section de maternelle et ça ira beaucoup mieux après.
Avec cette explication, ça peut régler le problème, j'ai l'impression.
Un peu, alors il y a plein d'autres petites combines à mettre en place, mais ouais, ce sera déjà un bon début. Ce sera pas perdu en tout cas.
Nouveau témoignage, Déborah.
Je m'appelle Déborah, j'ai 37 ans. Je suis la maman de deux enfants, deux filles, Emma qui a 7 ans et Loïse qui a 3 ans. Donc avec l'aînée Emma, j'ai pas de problème de sommeil particulier. Elle a jamais eu de problème pour s'endormir, pour aller seule au lit le soir. En revanche, avec la petite, c'est une autre histoire. On était sur le même rythme au départ, un enfant qui avait aucun problème de sommeil jusqu'à ses 1 an. Elle se frottait les yeux vers 8h, 8h30, c'était un peu un miracle. On lui mettait la gigoteuse, on lui faisait un bisou, un câlin, on la mettait dans son lit, elle s'endormait toute seule. Et puis depuis qu'elle a 1 an, il y a eu un soir, elle a refusé d'aller dans son lit à barreaux. Et depuis, c'est la galère. On a appris en fait que à la crèche, ils avaient enlevé les lits barreaux pour leur mettre des lits barquettes Montessori. Ce qui est bien en soi, mais c'est vrai que comme ils nous l'ont pas dit, nous on n'a pas fait la même chose en même temps à la maison. Ce qui fait que bah, ça a été compliqué, on n'a pas compris tout de suite. Et en fait, depuis 2 ans, l'endormissement est très compliqué parce qu'elle a peur, qu'elle ne veut pas aller au lit seule, qu'elle ne peut pas s'endormir seule. Donc c'est très compliqué. Avec l'entrée en maternelle, on arrive à réduire un peu la durée de l'endormissement parce qu'elle est plus fatiguée qu'à la crèche, puisque la sieste à l'école, c'est plus tôt qu'à la crèche. Donc on est passé d'un quart d'heure à 1h30, 2h, ce qui est déjà bien. Par contre, on n'arrive toujours pas à avoir une nuit complète. Vers 1h du matin, elle se réveille toujours en hurlant papa et il faut que papa finisse sa nuit avec elle. Donc c'est un petit peu compliqué, on est fatigué.
Alors Clémence Prompsy, je crois que c'est la première fois qu'on entend dire qu'elle a peur. Oui, il y a des enfants qui ont peur de beaucoup de choses avant de dormir. Qu'est-ce qu'on fait avec eux ?
Alors surtout, on essaye de pas leur dire que les loups n'existent pas et que les sorcières n'existent pas. En fait, ils ont besoin d'avoir peur. C'est encore dans ce moment un peu oedipien où ils ne savent pas comment grandir et puis du coup, ils peuvent avoir un peu peur d'être obligés d'affronter un des parents et que ce soit très compliqué ou d'être coincés dans leur vie de bébé. Et donc, ils vont projeter leur peur sur quelque chose. Et ils ont besoin de trouver des solutions. Donc, on n'hésite pas, on y va à fond. On achète la plus grosse épée clignotante deux fois grosse comme l'enfant. Bon, un pistolet mitraillette, si vous voulez, un pistolet. N'importe quoi, du pchit magique, un petit sac avec des perles de fées, de dragons, et on y va à fond. On joue la carte de la pensée magique. Ils ont besoin d'avoir peur, et donc ils ont besoin qu'on pense et qu'on croit à leur peur, et pas qu'on leur explique que ça n'existe pas.
Donc les enfants vont être actifs pour lutter contre ce qui leur fait peur. On peut faire des boîtes à cauchemars, des attrape-rêves. Il faut être imaginatif et ça peut presque être ludique à un moment avec son enfant.
Exactement, et on n'oublie pas de rigoler aussi en disant « bah je peux te dire que si le loup il voit un attrape-cauchemar, une boîte à un piège à loup... » J'ai eu une maman qui mettait une assiette de croquettes en bas de l'immeuble pour pas qu'il monte plus haut. J'avais trouvé ça très rigolo.
Pas mal du tout. Bon, à partir de maintenant, on va un peu énerver tout le monde. C'est-à-dire qu'on va entendre le témoignage d'Alix. Alix, elle a 3 enfants et pour elle, vous allez l'entendre, bah, les nuits, ça n'a jamais été un problème.
Je suis la maman de 3 enfants, j'ai 2 garçons qui ont respectivement 5 et 3 ans et une petite fille qui vient tout juste d'avoir 2 mois. Chez nous, les nuits n'ont jamais été vraiment un problème. On a des enfants qui ont dormi assez vite et bien. Notre aîné a fait ses nuits, donc par nuit, j'entends du 22h, 6-7h du matin. Donc notre aîné a dû faire ses nuits vers 2 mois. Notre deuxième, ça a été un tout petit peu plus long parce qu'il était un peu plus costaud. Et donc je pense qu'il avait un peu faim la nuit, donc il avait encore un bib. Vers 2 mois et demi, il a dû dormir complètement. Et là, notre troisième, alors on s'est dit, une fille, ça va être différent. Ça a été facile pour les 2 premiers. Là, on va se prendre un petit retour de bâton. Voilà, faut se préparer. Et en fait, déjà la maternité, les 3 nuits que j'y ai passées, elle a fait des nuits quasi complètes. J'ai dû me réveiller une fois par nuit. Donc, je suis ressortie de la maternité hyper reposée. Et là, depuis 15 jours, 3 semaines, donc assez 1 mois et demi, elle fait des belles nuits de 21h à 7h. Donc on est bien conscient de la chance qu'on a d'avoir des enfants qui dorment bien. C'est d'ailleurs pour ça, je pense, qu'on en a fait 3 et de façon aussi rapprochée, entre guillemets, parce que on est globalement pas trop fatigué. Je pense que le fait qu'ils soient nourris au biberon a joué un petit peu aussi dans le fait qu'ils fassent leur nuit plus tôt. Hein, une croyance populaire un peu idiote peut-être, mais je pense que ça joue. Et puis le facteur chance, quoi. Voilà, on a des enfants qui dorment plutôt bien et plutôt vite. Mais rassurez-vous aussi, nos enfants ont d'autres tares.
Bon là, Clémence Prompsy, elle n'a pas besoin d'aide. Hein, Alix, tout se porte bien pour elle. Est-ce que vous, quand vous voyez des parents qui vous disent que niveau sommeil, il n'y a pas de problème, vous voyez un point commun entre ces parents-là? Est-ce que ce sont des parents qui sont zen? Est-ce que les parents zen font des enfants qui dorment bien? Ou il n'y a pas de règles, c'est plus compliqué?
Bon, y a toujours plein de maladies à éliminer. Hein. Les bébés, parfois, ils ont mal. Et du coup, ça enclenche des mauvaises habitudes. Deux yeux, je trouve qu'on n'est quand même pas très bien formés. Hein. On trouve que le mode d'emploi, quand on vous livre bébé, est quand même pas très épais. Donc, c'est pas toujours simple de savoir comment leur apprendre les choses correctement. Après, j'ai déjà repéré des choses assez rigolotes. C'est que souvent, les gens vont me dire « Ah non, le sommeil, ça roule. » Et je dis « Mais vous me dites que rien ne va. » « Ah oui, mais le sommeil, c'était pas possible. » Et en fait, on a l'impression que l'égoïsme parental a mis une barrière et que coûte, il n'y avait pas moyen, en fait. Bon, après, ça peut avoir un tempérament et des enfants qui vont bien dans leur corps et qui dorment bien, mais il y en a qui n'étaient pas d'accord.
Oui, parce que c'est vrai aussi qu'avec des enfants, de temps en temps, c'est galère régulièrement, par exemple, pour les coucher, mais le jour où on est crevé, on a une galère au travail, etc., où on leur dit « pas ce soir, les enfants », généralement, ça marche.
Oui, c'est assez rigolo. Ils doivent être un peu câblés sur nous, quand même.
Oui, je pense. Allez, dernier message, là aussi, de quelqu'un qui n'a pas de problème. Enfin, qui n'a pas de problème, si. Vous allez entendre, il a un problème, mais pas celui auquel on pense instinctivement. Alexandre, écoutez.
Je m'appelle Alexandre, avec mon épouse Audrey, nous avons un enfant de 6 ans et demi qui s'appelle Charlie. Depuis la naissance de Charlie, à cause de ses nuits, nos journées semblent plus courtes. Pas tellement à cause de la fatigue, hein, non, pas de problème pour nous de ce côté-là. Mais bien parce que nos journées sont plus courtes. Notre fils dort environ 12 heures par nuit maintenant. Mais avant, c'était bien plus, au moins 16 heures par nuit jusqu'à ses 4 ans. Alors ouais, c'est confortable, ça laisse le temps de se reposer, mais c'est long et ça grignote les week-ends, de beaucoup. Les grasses maths, c'est sympa de temps en temps, mais tous les week-ends, c'est beaucoup trop. Imaginez, vous vous réveillez à 8 heures. Impossible de prévoir quoi que ce soit. À 10 heures, l'enfant ouvre la porte de sa chambre. Hourra ! Vous dites, ça y est, c'est bon, on est sauvé. Eh ben non, monsieur est, je cite, encore fatigué. Un tour aux toilettes et il retourne se coucher. Et c'est reparti pour une heure d'attente minimum. Le record, c'est un 1er janvier, où il aura dormi de 22h jusqu'à 13h le lendemain. On était hyper inquiets, on essayait de le lever, et à chaque fois, il nous envoyait bouler. « Mais laissez-moi tranquille, j'ai pas fini de dormir !» Alors le forcer à se lever, c'est possible, mais ça annonce une journée pourrie, car il va être épuisé, et il va râler et se traîner toute la journée. Un autre inconvénient de ses sommeils profonds, c'est le pipi au lit. Ça ne le réveillait jamais. Maintenant, ça va mieux. Mais il lui aura fallu presque 5 ans pour que l'envie de pipi le réveille. Bref, depuis sa naissance, moi, je me suis mis à la course à pied le matin. Et depuis, en 6 ans, moi qui ne me faisais pas du tout de sport, j'ai pu faire 4 marathons et quelques trails.
Voilà, comme quoi tout est bien qui finit bien pour Alexandre. Alors c'est sûr que les autres témoignages qu'on a entendus, je pense qu'ils n'ont pas trop le temps d'aller courir des marathons. Après, c'est vrai aussi, Clémence, qu'on n'a pas tous les mêmes besoins en termes de sommeil. Il y a des gros dormeurs, là c'est un très gros dormeur. Il y a aussi, chez les enfants, j'imagine, des petits dormeurs.
Oui, peut-être, je ne sais pas, mais là, celui-là est quand même assez impressionnant. En tout cas, petite astuce pour le pipi au lit. Quand ils sont un peu grands et qu'ils ont très envie de se motiver, parfois ils n'y arrivent pas, et c'est pour le coup un peu physiologique. Vous leur mettez un peu d'eau sur le poignet, vous leur mettez un peu de sel, et on lèche le sel. Et en fait, le sel augmente la rétention d'eau, et puis c'est un petit pouvoir magique. Et avec ça, souvent, ça marche bien pour la nuit.
Merci Clémence Prompsy. Je rappelle que vous êtes psychologue clinicienne, cofondatrice avec Aurélie Calais de Kids et Family, un service de coaching parental. Et aussi que sur votre site internet, vous proposez aux parents de s'offrir une sorte de mémo avec tous vos meilleurs conseils pour des nuits apaisées. Un bon investissement, je pense, avec des conseils concrets, je le précise. Voilà, c'était le 4e épisode du podcast des maternelles, un podcast réalisé par Alexandre Ferreira pour France Télévisions et de P2L sous la houlette d'Aurélie Taguet, d'Olivier Maqueron et de Jérôme Caza. Merci à Isabelle Tepper et Agathe Le Caron pour leurs bons conseils. Merci à mes enfants. Ce podcast m'a rappelé plein de bons souvenirs. Et bien sûr, merci à toutes celles et à celui qui ont accepté de se raconter et à Clémence Prompsy pour les conseils, pour le grand débriefing avec Clémence. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à celui-ci sur Apple Podcasts, toujours pareil, Castbox ou encore Spotify, avec une petite note, là, ce serait hyper sympa, vraiment. Et le mieux, vous savez quoi, le mieux, ce serait encore que vous le conseillez à vos proches, ce podcast, à ceux qui pourraient en avoir besoin. Ça, ce serait cool. Rendez-vous la semaine prochaine. Salut tout le monde, à bientôt, j'espère.